Hier soir, le pétrole est monté à 99,46 $. Il lui manquait grosso modo 54 centimes pour toucher les 100 $. Mais 100 $, c'est finalement pas grand chose, c'est presque rien. Ça nous obsède, c'est vrai, mais fondamentalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas grand chose. Le vrai chiffre, c'est 10 millions. 10 millions de barils qui ne sortent plus du détroit d'Ormuz. Tous les jours, depuis plus ou moins 7 mois. Avant, c'était pire. Là, c'est vrai, ça va un petit peu mieux. Mais rien n'est réglé, absolument rien. Dans le même temps, le Dow Jones a plongé de 628 points et Novartis a réussi à rater 2 essais cliniques en 48 heures et le secrétaire du Trésor américain a expliqué au public, devant une salle pleine de gens, et qui jouait au poker avec des cartes truquées et qu'on pouvait venir se frotter à lui si vraiment on avait le courage et si on osait. Et restez quand même jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous raconter comment l'Iran a brandi un trophée de guerre à 2,5 millions de dollars que les Américains ont décrit dans l'heure comme étant une poubelle. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le mercredi 9 septembre 2026 et je suis Thomas Veillet. Aujourd'hui au programme, un baril qui n'ose pas franchir une barre symbolique, un géant pharmaceutique suisse qui découvre qu'il a payé 12 milliards de dollars pour un canard boiteux, un trésor américain qui vend et rachète ses propres obligations en même temps, une divergence sur Nvidia qu'on n'a vu que 3 fois en 10 ans, et les investisseurs, les investissements dans les data centers qui ressemblent au graphique de la dette américaine qui, by the way, vient de passer les 40 133 milliards de dollars. C'est parti!
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Alors avant d'attaquer les sujets qui fâchent, je voudrais juste revenir sur un seul graphique, celui-là. En juillet, les dépenses de construction des data centers aux États-Unis ont bondi de 57% sur un an pour atteindre un rythme annualisé record de 75 milliards de dollars. Après les 46% de juin, c'est la plus forte accélération depuis le milieu 2025. Sur 5 ans, c'est encore plus violent. Début 2021, ce poste représentait à peine 9 milliards. Il en pèse aujourd'hui 75, soit 66 milliards de plus, soit une hausse de 717%. Le genre de pourcentage qu'on voit normalement sur un meme coin lancé un dimanche soir par une ligne officielle de statistiques. Mais le vrai chiffre, celui qu'il faut garder en tête, c'est la comparaison. Depuis fin 2023, la construction de data centers a progressé de 51 milliards. Et sur exactement la même période, tout le reste de la construction, construction privée américaine, les maisons, les appartements, les mobile homes, les bureaux, les centres commerciaux, les entrepôts, les cabanes de jardin, les niches pour chiens, absolument tout a perdu 120 milliards. Donc pour chaque dollar supplémentaire coulé dans du béton pour héberger des serveurs, il y a plus de 2 qui se sont évaporés des chantiers où des gens vivent et travaillent. L'Amérique n'a pas augmenté son effort de construction, elle l'a déplacé. Elle a arrêté de construire des maisons pour construire des armoires climatisées. On appelle ça la vague d'investissement dans l'intelligence artificielle et elle accélère. Moi j'appelle ça un pays qui a décidé que le logement pouvait attendre. Reste juste une question et on aura la réponse dans 10 ans. Qu'est-ce qui vaudra encore quelque chose en 2036? Un quartier de plus ou un hangar rempli de puces qui auront déjà pris 3 générations dans la tronche? On passe au pétrole. Le Brent monte à 99,46 $ en séance. Il regarde les 100 dans le blanc des yeux. Il hésite 3 secondes et il redescend à 97,92. Ouais, la trouille, ça se commande pas. Sauf que ce matin, il est de nouveau à 99 et il a manifestement changé d'avis. On dirait qu'il a envie d'en découdre, hein. Je crois qu'on est à la 6e séance de hausse d'affilée sur le baril. Alors pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on dormait encore une fois? Est-ce que Trump a tweeté? Même pas! C'est les Houthis qui ont envoyé des dizaines de drones et des missiles sur le sud de l'Arabie Saoudite. Plus de 70 blessés, plusieurs sites d'Aramco à l'arrêt, dont la raffinerie de Jazan, qui traite quand même 400 000 barils par jour. Et en face, l'armée américaine a coulé 5 pétroliers iraniens mardi, après en avoir déjà détruit 3 samedi. 8 bateaux en 3 jours. Il ne doit pas être super content, les gardiens de la Révolution. Et l'Iran, bien sûr, a donc répondu, hein. Ils ont tiré des missiles balistiques sur une base américaine en Jordanie, en prévenant les équipages amarrés au Koweït et à Bahreïn qu'ils feraient bien d'abandonner leur navire parce qu'ils sont les prochains sur la liste. Et puis alors, pour finir la nuit en beauté, des explosions du côté de l'île de Karg, l'île par laquelle transite quand même 90% des exportations de pétrole iranien. Nous sommes donc dans un 7e mois de guerre et à ce stade, honnêtement, on se demande si ça va finir un jour. Bon, maintenant, on va arrêter 2 secondes de regarder le prix du pétrole, puisque les 100 dollars n'impressionnent plus personne, parce que le prix affiché sur l'écran, c'est pas l'information, la vraie information. Le prix, c'est le symptôme. L'information, c'est le trou qu'on a derrière. Avant la guerre, il y avait environ 20 millions de barils par jour qui passaient dans le détroit d'Hormuz. Ça, normalement, vous devez savoir, on vous l'a dit, je pense, 1 milliard de fois. Moi, je vous l'ai dit, ils vous l'ont dit, et même Trump vous l'a dit, probablement. Mais hier, le patron de Vitol, alors Vitol, c'est quand même le plus gros négociant de pétrole de la planète, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est vraiment son métier de compter les barils, et c'est pas un ministre qui fait le tour des plateaux télé pour faire de la promotion. Le patron de Vitol estime donc qu'il manque 10 millions de barils par jour aujourd'hui. 10 millions. Alors 10 millions de barils, ça veut rien dire pour personne, moi le premier. Donc on va essayer de poser la chose un tout petit peu différemment. Un baril aujourd'hui, c'est 159 litres. Donc 10 millions de barils, c'est 1,59 milliard de litres, soit 1,59 millions de mètres cubes de pétrole. Si tu mettais tout ça dans un cube, il ferait environ 117 mètres de haut, mais de côté, quoi, grosso modo, un immeuble de 35 à 40 étages. Ça représente aussi 636 piscines olympiques remplies de pétrole. Et si pour l'image, t'imagines de vrais fûts métalliques de 88 cm de haut et que tu les empiles les uns sur les autres, 10 millions de fûts donneraient une colonne d'environ 8800 km de haut. Du coup, l'Everest, tout petit, hein. Mais revenons juste à du concret. Un super tanker aujourd'hui, ce qu'on appelle un VLCC, ça transporte environ 2 millions de barils. Donc, ce qui manque tous les matins, c'est 5 super tankers par jour qui ne quittent plus le port. Et si ça vous parle toujours pas, 10 millions de barils par jour, c'est à peu près 50 fois ce que la Suisse entière brûle en 24 heures. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Vous ajoutez à ça les 2 millions de barils russes qui ne sortent plus non plus, parce que les drones ukrainiens les ont pris pour cible depuis un moment. Donc, il ne reste plus qu'une chose pour tenir la baraque, les stocks. Et les stocks, par définition, ça se vide. On en a déjà parlé la semaine dernière et je pense que c'est un sujet qui risque de revenir sur la table. Goldman Sachs, pendant ce temps, il parle maintenant ouvertement d'un scénario avec un baril à 120 dollars. C'est pas leur scénario principal, mais c'est plus vraiment une blague, hein. Ça commence à venir un petit peu du sérieux. Et puis alors maintenant, je vais vous dire un truc, et c'est peut-être le point le plus important de toute cette vidéo. Le brut, on s'en fout un peu. Bon, enfin non, on s'en fout pas vraiment, mais c'est pas là que ça fait le plus mal, aussi fou que ça puisse paraître. Là où ça fait mal, là où ça fait très mal, c'est le diesel. Aux États-Unis, le gallon de diesel est à 5,90 $ en moyenne, avec des pointes à 8 $ dans certains états. 8 $. En Europe, le prix de référence du diesel s'approche des 200 $ le baril. Alors 200 $ le baril de diesel, c'est des niveaux qu'on considère comme catastrophiques dans les scénarios. Alors, pourquoi je vous parle de diesel plutôt que d'essence ? Parce que moi je roule pas en diesel de toute façon, mais parce que le diesel c'est pas une matière première comme les autres. Le diesel c'est ce qui fait rouler l'économie, c'est aussi simple que ça. Chaque yaourt dans votre frigo a fait un bout de chemin dans un camion, c'est inévitable. Chaque paire de chaussures, chaque paquet de pâtes, chaque colis, quand le diesel double, c'est une taxe invisible qui se glisse dans absolument tout ce que vous achetez, tout ce que vous consommez. Et selon Axios, ce magnifique média, cette guerre a déjà coûté à peu près 100 milliards de dollars de surcoût énergétique aux seuls consommateurs américains. 100 milliards, et c'est juste pour les États-Unis. Ah oui, puis alors, j'allais oublier, le gaz européen a repris 6% et tape son plus haut depuis janvier 2023, juste au moment où les températures vont commencer à se vautrer. Le timing est parfait. Moi, je finis la vidéo et je pars couper du bois. Mais rassurez-vous, parce que ce week-end, pendant qu'il jouait avec son générateur d'image, Papy Trump a trouvé le temps de nous annoncer que le gallon d'essence américain repasserait sous les 2 $ dès que l'Amérique aurait gagné la guerre. Donc il parie sur une baisse de plus de 50%, et là, je vous confirme, on se sent tout de suite mieux. N'est-il pas? Alors moi, je veux bien, mais il y a 2 remarques quand même au milieu de tout ça. Au vu du bilan de la nuit dernière, la fin de la guerre, c'est pas pour demain matin. Et puis le point 2, connaissant la vitesse à laquelle les pétroliers répercutent les baisses du baril, on devrait les ressentir dans 8 ou 9 mois si tout va bien, et encore, c'est parce que je suis hyper gentil. Bon, on change de continent et on rentre à la maison, maison chez nous en Suisse, parce que hier, la plus grosse claque de la journée, elle était helvétique. Une fois n'est pas coutume. Novartis, le géant balois, est devenu une véritable boucherie. Il nous a fait un bain de sang. Le groupe a annoncé que son traitement contre la dystrophie myotonique de type 1, le Del-Desiran, n'atteignait pas son critère principal en phase 3. Pour vous, ça veut rien dire, pour moi non plus, mais ça veut dire sur 150 patients, 54 semaines d'essai et un critère d'évaluation qui consistait à mesurer, en vidéo, le temps qu'un patient met à ouvrir la main. Résultat, aucune différence significative avec le placebo. Résultat, le titre s'est fait défenestrer de près de 11% après avoir déjà perdu 3 ou 4% la veille et on est au plus bas depuis le 6 janvier et le graphique ne ressemble plus à rien du tout. Alors un essai clinique qui foire dans la pharma, ça arrive, c'est même le cœur de métier. Le directeur médical a d'ailleurs déclaré, je cite, que les revers font partie du progrès scientifique. Et il a raison, c'est totalement vrai. Sauf que dans la finance, on se fout totalement que ce soit partie du progrès scientifique. Et sauf que le problème dépasse très largement cet essai-là, cet échec-là très précisément. Parce que ce médicament, il ne vient pas de chez Novartis. Ce médicament, il vient d'une société qui s'appelle Avidity Bioscience. Et Avidity Bioscience, Novartis l'a racheté fin octobre 2025. Pour la modique somme de, allez, 12 milliards de dollars. Et le médicament qui vient de se planter représentait à lui seul environ un tiers du pic des ventes projeté pour justifier ce prix de 12 milliards. 30% des revenus estimés. Donc là, c'est 30%, pouf, qui s'en vont. Traduction pour les gens normaux, ceux qui font pas de fusion-acquisition à longueur de journée, c'est comme si vous achetez un yacht de 50 mètres, mais le jour de la livraison, on vous explique que la coque prend l'eau. Par contre, bonne nouvelle, la coque prend l'eau, mais seulement quand vous le mettez dans la mer. Du coup, on se demande forcément si, avec la coque qui prend l'eau, il n'y a pas un moteur qui serait en train de foirer dans la cale. Et donc, le marché a fait exactement ça hier. Il est descendu dans la cale avec une lampe de poche pour vérifier et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que Novartis se paye quand même plus de 16 fois les bénéfices attendus pour 2027, quand la moyenne du secteur pharma se paye à moins de 13. Forcément, ça pose des questions. Et cet écart-là, eh bien, il faut le mériter. Il fallait le mériter. Il fallait le justifier. Bah, il vient d'être invalidé. En une matinée. RBC a downgradé le titre, Deutsche Bank déconseille le dossier Novartis, Bank of America estimait que le Del Desiran était capital pour Novartis, on est donc relativement mal. Et puis alors la bonne nouvelle, hein, c'est que du Novartis il y en a partout, hein, dans tous les fonds suisses, dans tous vos deuxièmes piliers, dans tous vos troisièmes piliers, dans l'AVS bien sûr, dans juste à peu près tout, pourvu que ça soit temporaire, mais là tout de suite, Novartis est devenu cher, Novartis est devenu très cher, trop cher. Et le meilleur, c'est le dégât collatéral. Parce que Novartis a aussi déçu sur un autre médicament, le pelacarsen. C'était la veille, un candidat cardiovasculaire. Et là, il s'est passé un truc absolument formidable. Vous avez une boîte qui s'appelle Amgen, qui est une société américaine, vous la connaissez tous, qui développe le concurrent direct. Il s'est pris 10% dans la figure hier par pure sympathie, par pure contagion, sans avoir rien fait et sans avoir rien publié. C'est la pire performance du S&P 500, la pire performance du Nasdaq et la pire performance du Dow Jones. Grand chelem! Une société américaine qui perd un dixième de sa valeur parce qu'une société baloise a raté ses essais, Trump va encore nous accuser d'être responsable, vu qu'il comprend rien à rien de toute façon. Bref, depuis le mois de juin, est-ce que vous savez quel est le grand narratif à la mode chez tous les stratégistes de la planète? La rotation de secteur. Il faut sortir de la tech qui est trop chère et aller vers les secteurs défensifs qui sont bon marché. La santé, par exemple, les financières ou l'énergie. C'est le conseil qu'on vous répète depuis 3 mois sur à peu près toutes les chaînes télé. Ici aussi, d'ailleurs. Résultat, hier, le secteur de la santé, le fameux secteur défensif, se prend 2,5% dans la tête. Et pendant ce temps-là, les semi-conducteurs, eux, ils font quoi? Ils montent pendant la rotation, visiblement. Alors, je dis pas que la rotation est une connerie, je dis simplement que quand un marché est nerveux, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Il y a juste des endroits où on se fait ramasser plus tard que les autres, ou alors moins que les autres. On passe maintenant rapidement au chiffre de l'obligataire, parce que ça va être le sujet de la fin de la semaine. Le 10 ans américain est à 4,79, le 30 ans traite à 5,25, et le 2 ans est à 4,40 sur son sommet de l'année. On notera que le 10 ans japonais recule un tout petit peu. Voilà, ça c'est le décor obligataire. Aujourd'hui, le trésor américain va au moins doubler ses rachats d'obligations longues, pour empêcher les taux longs de monter plus haut. C'est très bien. On connaît l'histoire, on la connaît même plutôt bien, on l'a décortiqué dans tous les sens. Sauf que le même trésor, cette même semaine, émet 119 milliards de dollars de dettes sur le 3 ans, le 10 ans et le 30 ans. Donc, d'une main, on vend 119 milliards d'obligations, et de l'autre, on va en racheter 4 à 6 pour empêcher les taux de monter trop haut. Et on va prier au milieu de tout ça pour que personne regarde les deux mains qui font le même boulot opposé en même temps. Et surtout, pour que personne ne réfléchisse. Alors, le génie américain qui sert de secrétaire au Trésor, Monsieur Scott Bessent, appelle ça calmer la fièvre du marché obligataire. C'est joliment dit, mais vous savez ce qui... Mais vous savez qui n'est pas d'accord ? Stanley Druckenmiller, c'est-à-dire le type qui lui a appris le métier à Scott Bessent, son mentor, l'homme qui l'a formé quand il était jeune trader. Druckenmiller a fait savoir publiquement qu'il trouvait cette stratégie complètement débile. Mais bon, Bessent a été nommé par Trump, c'est donc un gage de qualité et un gage de sécurité. Du coup, tout se reporte sur un seul chiffre, vendredi, le CPI américain. Les attentes sont à plus 0,4% sur le mois, 3,4% sur une année, avec une version core à 2,4%, ce qui serait le plus bas depuis 2021. Et le marché donne 58% de chances de probabilité à une hausse de 25 points de base la semaine prochaine. On a donc passé 2 ans entiers à parier sur les baisses de taux, à se demander combien il y en aurait, à quel rythme et à quelle vitesse, et là on est en train de parier maintenant. Sur les autres, on a donc officiellement tourné la veste avec un patron de la Fed qui a passé son premier Jackson Hole à expliquer qu'il ne rigolait pas du tout et qu'il n'avait aucun sens de l'humour. Et pendant ce temps-là, c'est mon moment préféré d'ailleurs, le vice-président américain déclare publiquement que la Fed devrait baisser les taux et que, je cite, « ce serait sympa d'avoir un peu d'aide ». Ouais, bah il y a des matins où on se demande sincèrement si tout le monde regarde le même écran ou même si la Maison Blanche a les accès live au marché et si par hasard ils ne prennent pas leurs décisions en lisant dans la panse de Bobby Farsi. Mais attendez, attendez, non mais attendez, attendez parce que c'est pas tout. Parce que le CPI qui va faire trembler la planète entière vendredi à 14h30, c'est les données du mois d'août. Le mois d'août, c'est-à-dire un mois où le baril était encore autour des 90 dollars sur le Brent, voire un peu en dessous. On va donc passer toute la journée de vendredi à commenter le relevé de compteur du mois dernier, alors que la vérité est ailleurs. Eh oui! Et puis alors bien sûr, dès lundi, on va spéculer sur ce que Warsh va tirer de tout ça, parce que mardi, la Fed commence son meeting et mercredi soir, ils annonceront leur décision. Par contre, il faut quand même noter qu'hier, il y a quand même eu de la bonne humeur, elle était dans les semi-conducteurs, encore une fois, pour changer. Intel a pris 9%, AMD quasiment 6%, Corning prenait 7,6% avec un contrat avec Verizon portant sur près de 80 millions de miles de fibre optique, Lumentum prenait 11% et c'était la meilleure performance du S&P, Coherent plus 7,1%, Qualcomm plus 3,2% après avoir signé avec Amazon comme client et comme actionnaire pour des puces et des data centers, bien sûr. L'indice des semi-conducteurs est en hausse de 68% depuis le début de l'année. Petit détail au passage, la directrice financière d'AMD a annoncé hier, sans trembler, que le marché adressable de sa société atteindrait entre 2000 et 3000 milliards de dollars en 2030. 2000 à 3000 milliards, soit à peu près le produit intérieur brut annuel de la France, pour vendre des processeurs pour l'intelligence artificielle. Mais le vrai truc, il est ailleurs, et il est franchement beaucoup plus intéressant. Parce que hier, pendant que l'indice des semi-conducteurs montait de 1,3%, Nvidia perdait 2%. Et cette divergence, sur 10 ans, je crois qu'on l'a vu 3 fois. À 3 fois en 10 ans, c'est pas beaucoup, hein, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Probablement pas grand-chose, mais il y a deux lectures possibles. La première, c'est la version optimiste, hein. C'est un élargissement sain de la hausse, le gâteau grossit, tout le monde en profite, et c'est plus une seule valeur qui porte le marché, et c'est très bien comme ça. La deuxième, elle est moins sympa, c'est le moment où la foule commence à sortir par les côtés, sans courir assez discrètement pour pas qu'on fasse trop de bruit, en essayant de pas réveiller les autres. Alors, je sais pas laquelle de cette lecture est la bonne, mais 3 fois sur 10 ans, ça mérite quand même qu'on garde un œil dessus pendant quelques jours. Et puis alors maintenant, asseyez-vous et écoutez 2 secondes. Le yen a pris près de 4% en une semaine, sa meilleure semaine depuis juillet 2024. Le Japon, lui, a cramé 96,4 milliards de dollars entre fin juillet et fin août pour soutenir sa monnaie. Est-ce que ça valait la peine ? J'en sais rien. Mais la vraie info n'est pas là, vraiment pas là. La vraie info, c'est que Scott Bessent, il a parlé. Le secrétaire du Trésor américain a parlé devant une salle pleine dans une université du Texas, c'était mardi, et je cite plus ou moins mot pour mot ce qu'il a dit. « Je suis la banque maintenant, donc quand on intervient sur le yen, j'ai une assez bonne idée de ce que la Banque du Japon va faire, de ce que les responsables japonais vont faire, et vous pouvez parier contre moi si vous voulez. » Et il en a rajouté une couche parce qu'il a dit qu'il a toujours rêvé d'avoir de l'information asymétrique. Alors vous pouvez réécouter plusieurs fois, il a rêvé d'avoir de l'information asymétrique. Asymétrique, ça veut dire plus égaux que les autres. Ça veut dire de l'information que les autres n'ont pas. Le ministre des Finances de la première puissance économique mondiale explique en public, avec un micro devant lui, qu'il dispose d'informations que personne d'autre que lui ne possède et qu'il s'en sert pour intervenir sur le marché d'échange et que c'est son rêve depuis toujours. Et puis alors surtout, il provoque le marché en le défiant de venir se frotter à lui. Alors dans n'importe quelle autre profession, Cette phrase, c'est un aveu et c'est direct en tôle. Alors, moi, je dis juste une chose, hein, on vit vraiment une époque formidable. Le gouvernement Trump n'a plus aucune limite. Un mot rapide sur le Canada, parce que c'est dans la même famille. Les surtaxes canadiennes sont entrées en vigueur hier, de 15 à 50% sur une vingtaine de milliards de produits américains. Grosso modo, ils s'en foutent quand même. Les négociations sur l'accord commercial ont capoté, notamment parce que les Américains ont eu la délicatesse de mettre sur la table les politiques culturelles et linguistiques du Canada, ce qui est une façon très élégante de dire à son deuxième fournisseur qu'on aimerait aussi choisir la langue qu'il parle. Les Québécois ont dû adorer. Salutations à eux d'ailleurs, parce qu'apparemment, vous êtes nombreux là-bas à nous regarder. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce mercredi 9 septembre? On retient qu'il manque 1 dollar au baril pour toucher les 100 et qu'il manque 10 millions de barils par jour au monde entier pour respirer à peu près normalement. On retient que le diesel a doublé en 7 mois et que c'est ça et pas le baril qui va se retrouver bientôt dans le prix de vos courses. On retient que Novartis a payé 12 milliards pour un yacht qui a des trous dans la coque. Et on retient qu'un secrétaire du Trésor a expliqué en public qu'il jouait avec des cartes truquées et que personne n'a bronché. Alors, je vous ai promis le meilleur pour la fin, donc voici le meilleur de la journée, parce que mardi, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé avec une fierté considérable, photos et vidéos à l'appui, qu'ils avaient capturé, je cite, « l'un des sous-marins sans pilote les plus modernes et les plus intelligents de l'armée terroriste américaine à l'entrée du détroit d'Ormuz ». Communiqué triomphal s'il le faut, image de l'engin sorti de l'eau, le trophée de guerre par excellence. Réponse de l'armée américaine dans l'heure qui a suivi. We don't give a shit, c'est un vieux modèle, il était en panne depuis une journée, il ne transportait aucune donnée sensible, aucun équipement classifié, et de toute façon, il était conçu pour être pris par l'ennemi. Et le fabricant en a même rajouté une couche en précisant que l'engin était attritable. Alors attritable, retenez ce mot, c'est un mot magnifique, ça veut dire on l'achète en sachant qu'on va le jeter. Comme un iPhone en fait. 2,5 millions de dollars la pièce et c'est jetable. Donc pendant que les uns exhibent une épave comme un trophée de guerre, les autres expliquent tranquillement qu'ils s'en tamponnent parce que c'est du consommable de toute façon. Et vous, tout à l'heure, quand vous irez faire le plan, en vous demandant pourquoi ça coûte si cher, eh ben, vous saurez, parce que maintenant, vous financez une guerre où le matériel est jetable, mais la facture, il faut quand même la payer à un moment donné. Aujourd'hui, nous aurons les stocks pétroliers américains à 16h30, les rachats d'obligations du Trésor, une adjudication du 10 ans dans l'après-midi, et la keynote d'Apple en fin de journée pour savoir de quelle couleur sera le prochain iPhone, et en combien il va se plier. Demain, la BCE, le PPI américain et les résultats d'Oracle, et vendredi, bien sûr, le CPI. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous likez, vous partagez, vous commentez, et vous vous abonnez. Et puis autrement, sachez quand même que je ne serai pas là demain. Demain, c'est le jeune Genevois, donc tarte au pruneau pour tout le monde. D'ailleurs, la tarte au pruneau, le jour de jeûne, ça reste la façon la plus genevoise de jeûner qu'on ait jamais inventée. Moi, je vous retrouve de toute façon plus tard encore aujourd'hui avec une autre vidéo spéciale Banque Centrale, spéciale BCE, spéciale Christine Lagarde et spéciale hausse des taux. Alors, à tout à l'heure et d'ici là, quand quelqu'un vous expliquera que le pétrole monte à cause des tensions au Moyen-Orient, vous saurez qu'il manque 10 millions de barils par jour et qu'il n'y a pas un seul quart de point de taux d'intérêt sur cette planète qui puisse rouvrir un détroit. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.